Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side, together. Schumann is speaking.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité.
Vous écoutez la chronique européenne, une émission par mois pour décrypter l'Union européenne ensemble. Institutions, politiques, fonds européens et leur impact sur le quotidien. Tout ça avec l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'An. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Européens. Cette émission vous est préparée par la Maison de l'Europe et des Européens de l'An, Europe Direct en genevois français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet au cœur de l'actualité européenne, l'euro et son élargissement. Et puis, l'intervention d'EFA sera axée sur la signature d'un traité clé entre la France et l'Allemagne, le traité de l'Élysée. Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Après avoir reçu le feu vert de l'Union européenne en juillet dernier, la Bulgarie devient officiellement le 21e membre de la zone euro, le jeudi 1er janvier. Le lev, qui était la monnaie officielle du pays depuis 1881, vit donc ces dernières heures. Les Bulgares peuvent encore les utiliser jusqu'au 1er février 2026, avant que l'euro ne devienne l'unique monnaie du pays. Les citoyens bulgares auront ensuite quelques mois supplémentaires pour échanger leurs devises dans les banques commerciales et les bureaux de poste. Le taux de conversion sera fixé à 1 euro pour 1,96 lev. Pour accompagner la transition, les autorités nationales ont également prévu de mettre en place un double affichage des prix, euro et lev, sur une longue période. Selon la Banque Centrale Européenne, cette mesure doit permettre de protéger les Bulgares contre des augmentations des prix injustifiées. Comme à chaque changement de monnaie, la principale crainte est celle d'une inflation importante. Dans le cas de la France en 2002, cette perception a été remise en cause par plusieurs études, de la Banque de France ou encore de l'INSEE. Seul un Bulgare sur deux est favorable au passage à l'euro selon les enquêtes d'opinion. Ce manque d'enthousiasme peut aussi en partie s'expliquer par le contexte politique dans lequel est plongé le pays. D'importantes manifestations ont conduit à la démission du Premier ministre le 11 décembre dernier, symbole de la méfiance des habitants envers leurs institutions et leurs dirigeants. Et du coup, chaque pièce de l'euro, pour rappel, comporte deux faces. La face commune, comme son nom l'indique, est identique pour tous les pays membres de la zone euro. Elle affiche la valeur de la pièce et représente soit l'Union européenne avant son élargissement le 1er mai 2004, soit une carte géographique de l'Europe au 1er janvier 2007. Et l'autre face sera unique à la Bulgarie. Je vous invite à regarder sur Internet, c'est très joli. Le sujet 2 concerne les États-Unis et le Groenland. Vous avez entendu l'intervention des États-Unis en Venezuela. Et le Groenland, c'est le sujet d'après. Réputé pour ses déclarations fracassantes depuis son retour à la Maison-Blanche, le 20 janvier dernier, Donald Trump affiche sans phare ses ambitions protectionnistes et expansionnistes. De quoi donner de sueurs froides à de nombreux chefs d'État et populations, y compris en Arctique. À peine investi en tant que 47e président des États-Unis, le milliardaire n'a pas tardé à mettre le feu aux poudres en annonçant, lors d'une conférence de presse le 7 janvier 2025, sa volonté d'annexer plusieurs territoires. Citant le cas du canal de Panama et du Canada voisin, le dirigeant de 69 ans a aussi évoqué le Groenland, situé à pourtant plus de 3200 km de Washington, et rattaché à un territoire européen, le Danemark. Nous en avons besoin pour notre sécurité économique, avait alors justifié Donald Trump, revenant sur le sujet en mars lors de son discours face aux deux chambres de Congrès. J'ai un message à adresser ce soir à l'incroyable peuple de Groenland. Nous souhaitons fermement votre droit à déterminer votre propre avenir et, si vous le souhaitez, nous vous souhaitons le bienvenu aux États-Unis d'Amérique. » avait alors lancé le président américain sous forme d'invitation adressée à la population de cette île autonome de 2,1 millions de kilomètres carrés, propriété du Royaume de Danemark, mais pas dans l'Union européenne. Peu d'un an plus tard, le discours n'a pas changé. Le 4 janvier 2026, le dirigeant de 79 ans, a réaffirmé son souhait d'un Groenland américain après que la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a exhorté les États-Unis à cesser les menaces d'annexion. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale et le Danemark ne serait pas en mesure de s'en occuper, a déclaré le président américain au journaliste au bord de Air Force 1. Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Avec l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro, il ne reste que 6 États membres qui n'utilisent pas encore la monnaie unique. La Banque Centrale Européenne le rappelle sur son site, tous les pays de l'Union Européenne ont vocation à rejoindre l'Union Monétaire et à introduire l'euro dès qu'ils rempliront les critères de convergence. Et pourtant, sur les 27 États membres, 6 n'utiliseront toujours pas l'euro en 2026. Après la disparition de l'EF bulgare et le passage de Sofia dans la zone euro ce 1er janvier. Ce groupe de retardataires est composé de 6 pays, Danemark, Suède, Roumanie, Pologne, Hongrie et République tchèque. Et parmi ce groupe, un cas atypique, c'est celui de Danemark. Copenhague a en effet négocié un accord de opt-out en 1992. Cette année-là, les Danois refusent le traité de Maastricht par référendum et l'Union négocie alors l'accord dit d'Édimbourg. Le gouvernement danois obtient 3 négociations vis-à-vis du traité. Sa police et sa justice demeurent une compétence intégralement danoise et autonome, de même que sa défense. Enfin, le pays ne rejoint pas la zone euro. Par de nouveaux référendums, la population danoise annulera l'opt-out sur la défense, mais confirmera les 2 autres. D'un point de vue monétaire, le Danemark maintient le cours de la couronne près de l'euro en l'indexant via le mécanisme de taux d'échange européen. Les autres pays sont plutôt en retard par rapport aux critères de convergence, appelés également critères de Maastricht, des indicateurs économiques à mettre en alignement avec ceux des États membres, afin de faciliter l'intégration du pays. Si en pratique ces critères ne sont pas respectés par les membres de la zone euro eux-mêmes, reste qu'ils s'appliquent à ceux qui ne sont pas entrés. Plusieurs pays ne les respectent pas, à commencer par la République tchèque, comme le rappelle la Commission dans son dernier rapport de convergence, paru en 2024. Prague ne remplit pas le critère de stabilité des prix, ni le critère de taux d'échange, puisque la couronne n'appartient pas au système monétaire européen. Le pays est pourtant au jour sur les questions de finances publiques et respecte la convergence des taux d'intérêt. Situation plus tendue encore pour la Roumanie et son leu. Ils ne remplissent aucun critère l'année dernière, ni celui de stabilité des prix, ni celui de taux d'échange, ni même celui de finances publiques. Son déficit a dépassé les 6% ces dernières années. De tous les États membres hors zone euro, Bucarest fait figure des pays le plus éloigné de toute entrée. À noter que la situation peut évoluer rapidement. En 2024, la Bulgarie cochait toutes les cases sauf celle de stabilité des prix. Sofia a dû ramener son inflation à environ 8% jusqu'à environ 2% en 2024. En réalité, la République tchèque et la Roumanie ne sont pas nécessairement pressés de se conformer aux critères européens. En particulier, Prague n'a pas entamé l'intégration de sa monnaie au système monétaire européen. Un signe de mauvaise volonté également partagé par la Suède, membre de l'Union européenne mais pas de la zone euro. Stockholm veut conserver son indépendance monétaire. Ces indicateurs macroéconomiques sont pourtant excellents. Inflation basse, surplus ou légère déficit budgétaire, taux d'intérêt peu élevé. Seul manque l'adhésion au système monétaire européen et donc la mise en conformité en matière de taux d'échange. La Pologne et la Hongrie font aussi figure d'épouvantail. Les deux pays ne respectaient aucun critère en 2024, malgré une forte croissance de Pologne. Varsovie a en effet enregistré une croissance de 3,4% en 2024, mais accuse un déficit d'environ 6%, plombé par un effort de remilitarisation d'ampleur. L'arrivée au pouvoir de conservateur Karol Nawrocki à la révèle de libéral et européiste Donald Tusk a repoussé un peu plus la perspective d'une entrée de la Pologne dans la zone euro. En Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban, en poste depuis 2010, a également profondément ancré Budapest et son forint en marge des politiques européennes. Le gouvernement socialiste précédent a été favorable à l'intégration. Mais le momentum politique ainsi que les soutiens populaires ont disparu, car la population craint une forte inflation en cas d'adoption de l'euro. A noter d'ailleurs que deux pays, le Kosovo et le Monténégro, ont décidé pour leur part d'adopter l'euro, sans faire partie de l'Union européenne, et ce pour des raisons de stabilité monétaire. Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe.
Merci et bonjour à toutes et tous. Je suis Eva, une volontaire allemande de la Maison de l'Europe et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un texte très important pour l'histoire franco-allemande, le traité de l'Élysée. Ce traité a été signé le 22 janvier 1963 par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle. À cette époque, seulement 18 ans après la Seconde Guerre de l'Allemagne, mondiale, c'était un geste très fort. Deux pays qui avaient été ennemis pendant des décennies ont décidé de tourner la page et de construire une amitié durable. L'objectif du traité était simple, mieux travailler ensemble. Les traités encouragent la coopération politique, mais aussi les échanges culturels et surtout les rencontres entre jeunes. Grâce à cela, beaucoup de programmes d'échange ont été créés. Par exemple, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. En tant que volontaire allemand, j'y profite directement de cette coopération. Rencontrer des personnes françaises, apprendre la langue et travailler ensemble, c'est exactement l'esprit du traité de l'Élysée. Aujourd'hui, on dit souvent que l'amitié franco-allemande était le moteur de l'Europe, et ce traité en est la base. Il nous rappelle qu'avec le dialogue et la coopération, on peut construire un avenir commun.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe.
Merci beaucoup Eva pour cette intervention très intéressante. D'ailleurs, nous fêtons le 22 janvier chaque année la journée franco-allemande. Du coup, c'est pour fêter aussi la signature de ce traité de l'Élysée. Et d'autres actualités européennes, par exemple à la Maison de l'Europe, le 6 janvier dernier, nous avons co-organisé avec le service départemental jeunesse, engagement et sport la deuxième journée de formation pour des travailleurs de jeunesse du département de l'Ain sur la thématique de concevoir un projet européen autour d'engagement des jeunes. Cette journée a été consacrée à la co-construction de notre projet de mobilité internationale et a été très riche en échanges. Ensuite, tout au long du mois de janvier, on est dans la préparation de notre programmation Europe Direct, avec des conférences, des balades européennes, des simulations des institutions européennes et autres ateliers. Si vous avez envie d'organiser ce type d'événement avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Et par exemple, on organise déjà un atelier Parcourir l'Europe à l'international pour les jeunes de la mission locale de Châtillon sur Chalaronne le 20 janvier. Et pour conclure, nous avons exploré l'actualité européenne du moment. Nous avons parlé de la zone euro et de cette période franco-allemande qu'on traverse maintenant. Merci à Eva pour son intervention et à vous, chers auditeurs, pour votre écoute toujours attentive. Excellente année européenne à vous et à bientôt sur Européen.
Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side. Together.
Seguito arriva sabato sera. Alors, c'est pas possible d'assister.
Schumann is speaking.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité.
Vous écoutez la chronique européenne, une émission par mois pour décrypter l'Union européenne ensemble. Institutions, politiques, fonds européens et leur impact sur le quotidien. Tout ça avec l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'An.